Parole d'auteur. Une émission de Monique Fauché.
Mycéniens, étrusques, phéniciens, ibères, autant de noms qui évoquent des civilisations disparues des rives de la Méditerranée. On pourrait en ajouter bien d'autres. Et oui, ces civilisations sont tombées dans l'oubli. Et oui, comme le disait Paul Valéry au sorti de la Première Guerre mondiale, nous autres civilisations, nous savons que nous sommes mortels. Si on parlait de différentes civilisations au pluriel, on peut dire qu'à l'heure de la mondialisation, une sorte d'uniformité s'opère dans les progrès, certes, mais beaucoup dans les méfaits et leurs conséquences. Dilapidation des ressources de la Terre, inégalité de plus en plus forte entre pauvres et riches. C'est ainsi que nous pourrions être les témoins de la disparition de l'espèce. C'est dans un ouvrage très documenté, éclairé d'explications plus complexes et subtiles, que l'académicien Amin Malouf explique l'origine et l'évolution de cette dérive humanitaire. Il s'agit de l'essai intitulé « Le naufrage des civilisations » paru aux éditions Grasset et je suis heureuse d'accueillir aujourd'hui Amin Malouf. Amin Malouf, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être venu jusqu'à nous, de votre Vendée, de la Vendée où vous habitez, de Paris aussi où vous devez être souvent puisque vous siégez à l'Académie française régulièrement, j'imagine. Oserais-je vous demander si, en voyant Notre-Dame brûler, vous avez pensé un instant que sa destruction était le symbole de la fin de notre civilisation ?
Je n'irai pas jusque-là, mais il est vrai que bâtir des cathédrales, c'est un acte de civilisation important qui va au-delà de l'architecture, au-delà même de la religion elle-même. C'est un élan, une élévation de l'âme d'un peuple. Et la destruction d'une cathédrale, ça, c'est également un événement qui va au-delà du bâtiment, au-delà d'une signification d'une signification liée à sa place dans un pays, dans le cycle touristique et autres. Je crois que ce sont des événements qui incitent à la contemplation. C'est un moment qui nous pousse à nous poser des questions, en tout cas, sur le monde où nous vivons, sur le sens de la civilisation, sur la fragilité de nos civilisations. Quand on voit des bâtiments qui sont là, que nos ancêtres ont pu voir et qu'on supposait là pour toujours et qu'on le voit s'enflammer, qu'on voit la flèche s'embraser et tomber devant nous. Je pense que ça incite à la fois à se demander quel est le sens de l'époque où nous vivons, où nous allons, et ça nous invite aussi à plus d'humilité par rapport aux constructions humaines.
Est-ce que vous n'avez pas été étonné de voir quand même combien tous ces tant de monde s'est uni dans la déploration, enfin l'émotion devant ce spectacle de Notre-Dame en flammes? Il y a eu une telle ferveur, une telle union d'un coup. Est-ce que c'était que le spectacle ou le symbole?
Écoutez, si l'on veut être honnête, c'est les deux à la fois. Je pense que nous sommes aussi dans une société de spectacle. Le fait de voir les images devant soi crée une émotion supplémentaire. Je ne suis pas étonné que les gens réagissent de cette manière. Cela dit, il est vrai que notre époque est une époque de ferveur brève, passagère. Et donc, au moment où l'événement se produit, on se mobilise, on se rassemble. Et je suis toujours étonné de la vitesse avec laquelle on oublie. On passe à autre chose, à d'autres ferveurs, à d'autres enthousiasmes. Donc j'espère seulement que cette ferveur aura un côté plus durable. Et que la volonté de reconstruire et aussi, je le répète, de méditer sur l'époque se poursuivra quelque temps.
Oui, il n'y a pas que les valeurs matérielles. Vous commencez votre ouvrage par une remarque, une constatation. Nous avons des pouvoirs fabuleux pour protéger, soigner l'espèce humaine, et pourtant nous nous engageons dans toute autre chose. Alors, les raisons sont multiples.
Ça me frappe effectivement quand je vois tous les moyens dont nous disposons aujourd'hui, avec les progrès de la technologie, avec les progrès aussi du développement économique. Quand je pense qu'un pays comme la Chine, qui semblait enfermé pour longtemps dans le sous-développement, a pu en quelques décennies se décoller de la manière que nous voyons. Quand je vois que tout le savoir des hommes se trouve aujourd'hui au bout de nos doigts à chaque instant de notre vie, je trouve cela merveilleux. Et en même temps, il y a des aspects de notre vie qui sont inquiétants, où nous n'utilisons pas véritablement le pouvoir que nous avons pour faire avancer l'humanité dans tous les domaines. On a l'impression que matériellement nous progressons, mais dans les mentalités nous piétinons et quelquefois nous régressons. Et je le déplore profondément. J'ai l'impression que l'humanité est aujourd'hui à un moment de son évolution où elle pourrait résoudre absolument tous les problèmes que se sont posés les générations précédentes. Et en réalité, nous ne parvenons pas à gérer le monde tel qu'il est aujourd'hui. Nous ne parvenons pas à gérer les relations entre les peuples, entre les communautés. Nous n'arrivons pas à gérer l'ordre mondial. Nous sommes déboussolés complètement.
Avant de parler justement de l'origine de cette désorganisation, désintégration, vous avez mentionné quand même qu'on n'est pas capable de prendre le problème du réchauffement climatique, de prendre les mesures nécessaires déjà. Vous parlez de la course au profit, de ce déchaînement des inégalités. C'est déjà des enjeux majeurs. Et puis après, ce qui est assez effrayant, c'est, vous me nommez, les dirigeants incapables que se choisissent certaines populations, des dirigeants extrêmement dangereux.
Vous avez bien fait de mentionner le réchauffement climatique. C'est un exemple d'un combat que nous devrions mener, que nous avons la capacité de mener s'il y a suffisamment de solidarité, suffisamment de lucidité dans notre monde d'aujourd'hui. Et en réalité, nous ne faisons rien de significatif, rien qui puisse enrayer cette dérive. Et c'est vrai dans beaucoup de domaines. C'est vrai aussi, par exemple, quand on pense à l'Europe, le rêve européen qui, à mes yeux, est l'un des rêves les plus prometteurs du monde d'aujourd'hui. Regardez ce qu'on en fait aujourd'hui. Regardez, absolument. On a l'impression que
Excusez-moi, je vous interromps. Est-ce que c'est pas un naufrage un peu moral, carrément, une perte d'utopie?
C'est essentiellement un naufrage moral. Je pense qu'il y a un véritable naufrage moral. Il y a je ne veux pas trop nommer des gens, mais il suffit de regarder du côté de la Maison Blanche. Quand même, on parle du pays le plus puissant, le plus influent, le plus riche, celui dont nous vient l'essentiel de ce que nous considérons comme notre civilisation contemporaine. Et nous regardons et nous nous demandons si c'est vraiment, vraiment ce type de modèle que nous offrons au reste de l'humanité. Et il y a effectivement un naufrage moral. Il y a les idéologies qui ont dominé le XXe siècle, le conflit, le fameux conflit qui a duré plusieurs décennies et qui a dominé la vie dans le monde entre communisme et capitalisme, les idéologies...
Deux guerres mondiales, quand même.
Et de guerres mondiales. Toutes ces idéologies qui ont fait naufrage. Mmh. Bon, d'abord, certainement, le communisme. Le capitalisme, je ne dirais pas qu'il a fait naufrage, mais aujourd'hui, on a le sentiment qu'il a atteint, qu'il s'est essoufflé, qu'il ne tient plus ses promesses. Nous avons même les institutions religieuses qui ont une perte de crédibilité qui se répercute sur les religions elles-mêmes, qui souvent sont détournées de leur rôle, de leur mission, pour des raisons politiques ou autres. Il y a véritablement une crise morale profonde qui, à mes yeux, s'apparente à un véritable naufrage.
Oui. Alors, dans votre ouvrage, vous pensez, vous dites, et je vous cite, « C'est à partir de ma terre natale que les ténèbres ont commencé à se répandre partout dans le monde. » Et là, c'est très intéressant de vous suivre pas à pas au cours de tous ces chapitres. Votre terre natale, c'est le Liban, et l'Égypte aussi, en grande partie. Et cette désagrégation que l'on observe est partie de là. En fait, vous montrez ce qu'ont connu vos grands-parents, vos parents même, en partie, et puis vous montrez tout ce qui s'est passé à partir du Liban, de l'Égypte, de tout ce qu'on appelle le Moyen-Orient.
En fait, dans ce livre, Le naufrage des civilisations, j'adopte une attitude d'une personne qui essaie de se remémorer les événements.
Avec un recul, maintenant.
Voilà, et en essayant de comprendre le sens des événements, et je commence au tout début de ma vie, quand j'ai ouvert les yeux sur le monde, effectivement au Levant, au Liban, avec ma famille maternelle qui était en Égypte, j'ai le sentiment que cette région du monde qui aurait pu offrir au reste de l'humanité un exemple, un modèle de vie commune entre des gens ayant des croyances, des cultures, des origines différentes, a été finalement un contre-exemple, puisque c'est une région qui a été, depuis des décennies, le lieu de conflits, de détestation, de haine, de déchaînement de violence. Et c'est vrai que, du point de vue de la personne que je suis, qui a vécu dans cette région du monde avant de venir en Europe, j'ai le sentiment que quelque chose s'est transmis de cette région du monde, une attitude perverse, destructrice à l'égard des identités, une incapacité à vivre ensemble. Et je ne suis pas loin de penser, effectivement, qu'une partie des drames que nous vivons dans le monde entier trouve son origine dans ma région natale.
Oui, en fait, vous dites une chose qui a été observée dans ma propre famille, quelqu'un qui a vécu au Liban dans les années, la fin des années 40, était enthousiasmé par la vie là-bas, entre les différentes religions, les différentes origines, disant vraiment que c'était le pays du bonheur.
Je suis entièrement d'accord. Moi, j'ai grandi dans cette atmosphère. Dans le quartier de mon enfance, il y avait des chrétiens, des musulmans, des juifs, des gens de diverses communautés, des gens qui venaient d'ailleurs. Il y avait beaucoup de Français, d'Américains, d'Allemands et aussi de gens de pays arabes.
Une terre d'accueil.
Véritablement, oui. il y avait une qualité de vivre, du vivre ensemble qui était assez remarquable. Et puis, il y avait des institutions d'enseignement de grande qualité. Il y avait véritablement, cette région était en train de progresser. On pouvait espérer que cette qualité de coexistence allait se prolonger,
Avec une grande richesse intellectuelle aussi.
Avec une grande richesse intellectuelle, à laquelle s'ajoutait une certaine prospérité économique qui permettait de donner de l'espoir aux gens. Et j'ai vu, j'ai vu dans ma jeunesse déjà les choses péricliter. Cette qualité de coexistence que je croyais amenée à durer indéfiniment. Quand j'étais enfant, j'étais persuadé que ça se passait comme ça partout et que ça allait durer indéfiniment. Et puis j'ai vu la fin de ce modèle, ou en tout cas l'effritement de ce modèle et sa transformation en contre-modèle. Et,
oui. Alors, justement, on vous suit pas à pas dans cet ouvrage, dans cet essai, « Le naufrage des civilisations ». On vous suit pas à pas parce que vous essayez de décortiquer, non, mais de voir, de remonter à la source même. Et on parle de l'Égypte, vous parlez de l'Égypte, ce bouillonnement culturel, là aussi. Vous parlez de ces poètes, le prince Charki, Taha Hussein, et puis tous ces chanteurs, par exemple, qui sont venus jusque chez nous. Un paradis dans votre souvenir, mais c'était le fait. Et puis, il y a eu quand même... Il y a eu un fait, c'est-à-dire un ressentiment de la présence de la domination étrangère qui s'est accrochée là à un moment donné.
Il y avait en Égypte dans les années jusqu'aux années 50, à partir des années 20-30 jusqu'aux années 50, une sorte d'univers à part qui se caractérisait d'une manière positive par une éclosion culturelle dans beaucoup de domaines, dans beaucoup de langues également, qui a produit effectivement, comme vous le dites, des figures intéressantes, y compris dans la chanson française, les gens connaissent.
Moustaki, qui est venu ici à votre place.
Voilà, Moustaki, l'époque. Qui était un ami. Ouais. Moustaki, Dalida, Claude François
oui.
Guy Béard et beaucoup d'autres qui ont grandi en Égypte et qui sont venus avec un parfum de cette culture. Donc il y avait cela. Et moi, je l'ai connu, non pas directement, parce que c'était un peu avant que je... Avant mon époque, je l'ai connu surtout par les récits de ma famille maternelle, de ma mère, de ses frères et sœurs qui ont vécu dans ce paradis pour eux. Et en même temps, c'est vrai qu'il y avait un côté beaucoup moins ensoleillé. C'est que beaucoup de communautés étrangères en Égypte avaient un statut assez inacceptable. Oui. Aux yeux de la population.
Un statut, s'il se voulait, supérieur.
Ils avaient un statut d'extraterritorialité.
Oui, c'est ça, oui.
Qui faisait, par exemple, que si un Italien au Caire assassinait son voisin...
Il n'était pas jugé...
Il ne pouvait pas être jugé sur place, il devait être envoyé en Italie. Donc c'était une situation qui a provoqué beaucoup de ressentiments. Et... il y avait donc ces deux aspects. Il y avait à la fois ce foisonnement extraordinaire et en même temps ce côté inique qui a fragilisé le modèle et qui, à un moment donné, a cassé le modèle à partir des années 50.
Oui, à partir des années 50. Et alors, il y a eu l'arrivée de Nasser, qui était peut-être quelqu'un qui aurait pu peut-être rassembler.
Si l'on rêve, on se dit que Nasser aurait pu arriver... et modifier cette situation, il a opté pour une solution qui, à mon avis, était malheureuse. C'était de pousser vers la sortie toutes ces communautés qu'on appelait les égyptianisés, qui étaient d'origine très différente et qui faisaient quand même.
Vous avez une expression que j'ai beaucoup aimée. Vous dites « les minoritaires sont des pollinisateurs ».
C'est vrai, C'est vrai que les minoritaires jouent ce rôle beaucoup de sociétés.
Partout, oui.
Dans beaucoup de sociétés.
Oui.
Et quand on veut les exclure, les chasser, on appauvrit la société. Et dans ce livre, je dis que pour moi, l'exemple positif, c'est celui de Mandela, qui s'est battu contre la minorité blanche pendant très longtemps,
qui a fait
une longue période de prison. Et quand il a gagné,
il leur a tendu la main.
Il leur a dit, ne partez pas, nous avons besoin de vous. Et il a tout fait pour les retenir. Et je pense que c'est ça.
Ouais.
C'est ça l'exemple à suivre, plutôt que celui de Nasser qui les a poussés vers la sortie. Mais il faut dire quand même, à la décharge de Nasser, que c'était beaucoup plus...
Il était contraint et forcé.
Non, c'était une autre époque. Nasser vivait dans une autre époque. Les années 50 ne sont pas les années 90.
Oui,
il y a eu beaucoup de changements. Donc, on ne peut pas simplement juger l'homme.
Oui. On a tendance à juger avec notre époque, effectivement.
Il y a l'esprit de l'époque qui faisait qu'il avait fait le mauvais choix.
Alors, évidemment, ce que vous mentionnez tout à l'heure, le Liban, c'était encore très différent. C'était une terre d'asile. Il y avait l'objectif premier, il y avait d'ailleurs des Syriens qui sont venus se réfugier, certains en Iran, au Liban. L'objectif premier, c'était l'équilibre entre les communautés religieuses. Et puis, il n'y avait pas de différence entre autochtones et halogènes, entre autochtones et les gens qui venaient de l'extérieur.
Ça, c'est une grande différence entre le modèle égyptien et le modèle libanais. En Égypte, il y avait des communautés qui étaient un peu séparées de la population locale. Au Liban, il n'y avait aucun statut similaire. Il y avait des communautés différentes qui étaient de taille différente, mais qui étaient toutes considérées comme étant des communautés libanaises. Et il y avait une très grande capacité à intégrer ceux qui venaient de l'extérieur. Et c'est vrai qu'à cette époque-là, il y a eu beaucoup de familles qui étaient venues de Syrie ou d'Égypte, d'ailleurs, qui se sont installées au Liban et qui se sont complètement intégrées. Dès la première génération, on ne se souvenait même pas de lieu d'origine de la personne.
Oui. Moi,
je me souviens des élections qu'il y avait dans les années 60. Il y avait des candidats qui étaient nés à Beyrouth, mais aussi qui étaient nés à Damas ou à Alep. Et qui se présentaient sans avoir à justifier. On ne les percevait pas comme étant des étrangers. Ils étaient directement intégrés à la vie du pays.
Et oui, on va voir que cet accueil, cette générosité, je dirais, a peut-être été aussi leur faiblesse à un moment donné. Alors, on va faire une petite pause musicale et nous reprenons tout de suite ensuite.
Parole d'auteur. Monique Fauché.
Voilà, nous reprenons notre entretien avec Amine Malouf, qui nous fait le plaisir et l'honneur de venir dans nos studios. Amine Malouf, mais oui, nous vous avons reçu en un temps où vous n'étiez pas encore académicien et vous écriviez, c'était un roman, vous étiez venu pour un roman. Et là, donc, vous nous présentez un essai intitulé « Le naufrage des civilisations » paru chez Grasset. Et nous parlions du Liban, votre pays, le berceau de votre famille, le Liban terre d'Aliz, mais qui a eu une faiblesse. Et c'est là où j'ai mieux compris. C'est-à-dire que le Liban a accepté que les Palestiniens viennent s'installer, les combattants palestiniens viennent sur le territoire. Par rapport à la Jordanie, ça a été quand même une différence.
Ça, c'était un aspect des choses. Je crois qu'il y a aussi un problème qui était lié aux communautés libanaises elles-mêmes, qui avaient pris l'habitude depuis longtemps d'avoir des protecteurs étrangers. Et ce qui fait que le pays est devenu un terrain d'affrontement entre toutes les puissances globales et régionales surtout. Et ça a démoli le pays. Vous savez, on a souvent dit du Liban qu'il était la Suisse du Proche-Orient. Et imaginez si en Suisse, la communauté alémanique prenait position dans chaque conflit mondial avec les Allemands, que la communauté romande prenait position avec les Français et le Tessin avec les Italiens, le pays n'aurait pas survécu. Et c'est un peu cet exemple au Liban. Chaque communauté avait des protecteurs extérieurs. Souvent, il y avait des conflits entre des pays arabes ou entre un pays arabe et Israël ou entre les grandes puissances, des conflits qui se passaient sur le territoire libanais et qui ont fini par démolir le pays et par modifier radicalement ce rapport entre les communautés libanaises.
Alors, en plus, on peut parler aussi de cette tentative d'unité arabe avec un leader dont nous venons de parler, Nasser. Et il y a eu cette tentative, la Syrie s'est adoubée à Nasser, l'Irak a connu une révolution sanglante et tout ça était très, comment dirais-je, orageux. Au Liban, il y a eu un accord avec Nasser également, mais il y a eu un nouveau coup d'État en Syrie. Enfin, je résume peut-être très mal.
En fait, non, vous avez raison de mentionner ça, mais il y a eu des dizaines d'événements et de conflits qui ont fait que le pays, qui était quand même un pays fragile, constitué de diverses communautés, avec des équilibres extrêmement délicats, avec une économie basée sur les services, donc également très sensible aux fluctuations politiques et autres. Et le pays a fini par perdre son économie, par perdre son système politique qui s'est fragilisé, et par perdre sa véritable indépendance, puisqu'il dépendait de tel ou tel voisin. Et c'est une grande tristesse pour moi, l'histoire de mon pays natal. Je crois qu'il aurait pu donner au monde le plus bel exemple de coexistence. Il y avait dans ce pays des communautés qui venaient de partout, qui avaient une histoire compliquée et qui avaient trouvé véritablement dans ce pays un havre de paix, de sérénité. Et les tourbillons de l'histoire et les fautes des dirigeants ont fait que ce pays a perdu cette caractéristique qu'il avait. La vie quotidienne est devenue beaucoup plus compliquée, beaucoup plus difficile. L'économie a perdu sa place parce que c'était une économie qui jouait un rôle de pôle dans l'ensemble de la région. Et malheureusement, elle a perdu sa place et le pays s'est en quelque sorte rabougri.
Oui. Vous parlez d'un événement important. Vous dites la guerre des six jours. Ça a été un événement important. Si je décode, est-ce que justement la brève, cette guerre qui a été perdue, qui a été brève, n'a pas donné un sentiment d'humiliation ?
Cette guerre a été un événement majeur dans l'histoire de cette région. Je résume en deux mots. C'est une guerre qui a eu lieu, qui a commencé le 5 juin 67 et qui a duré quelques jours, mais qui en réalité a été gagnée dès le premier jour par un bombardement massif
par les Israéliens
des aéroports égyptiens, syriens, jordaniens. Et pour le monde arabe, c'était une défaite inattendue qui a assommé les gens et durablement, je dirais. Nasser, à l'époque, était la figure la plus populaire dans la région. On attendait de lui... C'était un héros. On attendait de lui qu'il sorte le monde arabe du sous-développement, de l'humiliation. Et en réalité, sa défaite a provoqué un découragement qui n'a plus jamais pu être dépassé.
Oui, vous parlez même du syndrome de l'éternel perdant.
Oui, ce syndrome s'est installé dans le monde arabe. On avait le sentiment qu'il n'y avait plus rien à faire, que quoi que l'on fasse, tout allait se terminer par une défaite. Et c'est ce qui explique, entre autres, que 50 ans, plus de 50 ans après cette guerre, le monde arabe ne s'en est jamais vraiment remis. Il y a un sentiment de découragement et de désespoir que l'on sent jusqu'à aujourd'hui.
Oui.
Jusqu'à aujourd'hui. Et de temps à autre, il y a comme ça une bouffée d'espoir, comme il y avait eu dans ce qu'on a appelé il y a quelques années le printemps arabe. Ça a duré très peu de temps. Ça a duré dans la plupart des pays juste quelques mois. Et puis c'est retombé. Et je pense que là encore, ce sentiment de désespoir est revenu dans beaucoup de pays.
Et alors, justement, je pense que c'est peut-être à l'issue, il me semble, de cette guerre, des six jours, que Nasser finalement a été renversé. Et alors, est-ce que c'est le départ de Nasser qui a laissé une grande place aux frères musulmans ?
La défaite de Nasser et sa mort ont sonné la fin d'une époque qui était marquée par le nationalisme arabe. Pendant les années déjà 40, 50 et 60, le nationalisme arabe était la doctrine dominante dans pratiquement tous les pays arabes. Elle était symbolisée par Nasser, personnifiée par Nasser, et sa disparition a en réalité démoli le nationalisme arabe, qui ne s'en est jamais relevé, et sur les décombres du nationalisme arabe est apparue une autre doctrine politique qui s'est développée de plus en plus, qui était à sa manière nationaliste, mais qui était fondée essentiellement sur la religion. Et ça, c'est un phénomène qui commence principalement à la défaite de Nasser, qui se développe tout au long des années 70 et qui atteint son point déterminant en 79 avec l'arrivée au pouvoir, non pas dans le monde arabe, mais en Iran. Mais ça a eu des répercussions aussi dans le monde arabe, dans tout le monde musulman, c'est l'arrivée de Khomeini au pouvoir, la révolution iranienne, qui, euh, qui a fondé une république islamique et qui a fait des émules un peu partout dans la région.
Et qui perdure.
Qui perdure et qui a été un événement aux conséquences innombrables à travers la planète entière, je dirais. Bien sûr.
Alors justement, vous parlez de Roménie, on peut parler de révolution conservatrice quasiment à l'échelle mondiale. Vous dites en 7 mois, il y a eu des bouleversements majeurs. Roménie, Thatcher, Deng Xiaoping et Jean-Paul II. 4 hommes, 4 personnalités fortes qui représentent finalement un pouvoir, une forme de pouvoir conservateur.
En fait, quand j'ai essayé de passer en revue tous les événements des dernières décennies, il m'est apparu de plus en plus qu'il y a un moment de basculement qui se situe autour de l'année 79. Il y a eu d'un côté la révolution iranienne qui a eu des conséquences énormes dans tout le monde musulman et au-delà.
Avec un conservatisme religieux.
Oui, oui. Il y a eu la révolution de Margaret Thatcher, qu'elle appelait elle-même la révolution conservatrice, qui a changé la manière,
économique.
Qui a changé complètement la manière de gouverner la politique économique, d'abord de l'Angleterre, puis des États-Unis avec Ronald Reagan, et ça a eu des répercussions pratiquement partout. Il y a une nouvelle manière de gouverner qui s'est imposée à partir de là. Et donc,
sans barrière, c'est ça aussi.
Et là, ces deux événements ont été des événements majeurs, deux événements extrêmement différents l'un de l'autre, mais qui avaient un aspect commun, c'était dans les deux cas des révolutions conservatrices. Je veux dire par là que dans le cas de l'Iran, c'était une révolution menée par des forces socialement conservatrices, très conservatrices, et en Angleterre, qui était plutôt une révolution menée par les possédants, alors que les possédants était d'habitude la cible des révolutions du XXe siècle. Et ces bouleversements ont changé les réalités du monde et ont forgé le monde tel qu'il est aujourd'hui. C'est-à-dire un monde où il y a des affirmations identitaires très fortes.
Avec un certain cynisme même.
Certainement. Ouais. Et avec beaucoup de violence parfois. Et aussi un monde où les rapports entre gouvernants et gouvernés sont différents. C'est-à-dire l'idée qui prévalait, je dirais, depuis Roosevelt, et certainement avec le capitalisme réformiste imaginé par Keynes et d'autres, il y avait une approche de la politique et de l'économie qui a été complètement bouleversée. Et là, on est dans un monde complètement différent où l'État-providence est considéré comme une idée du passé, où le principe d'égalité ne guide plus.
Oui, quand je parle de cynisme, il y a ça aussi, oui. Et on ose dire les choses, des choses qui nous paraissaient inimaginables à une époque.
Et bon, peut-être que économiquement, ça a pu avoir un sens, mais en même temps, on voit aujourd'hui qu'il y a des secteurs de plus en plus importants de toutes nos sociétés qui se sentent
mis de côté.
Laissés pour compte, qui sont mis de côté, marginalisés par ces politiques qui ne prennent plus en compte les gens les plus faibles, les plus pauvres, et qui veulent à tout prix réduire les aides sociales. Et je pense que l'effet combiné de ces deux évolutions, c'est-à-dire les affirmations identitaires et l'affaiblissement du rapport entre gouvernants et gouvernés, crée ce sentiment qu'il y a aujourd'hui d'être déboussolé, d'être lâché, sans soutien, sans avenir quelquefois.
Oui. Vous dites d'ailleurs qu'à un moment donné, le marxisme aurait pu être, mais on a vu ce que c'était et vous le dites vous-même, aurait été un élément finalement mobilisateur dans les pays africains en particulier. Il y avait une utopie, un espoir, mais on a vu ce que ça a donné.
Malheureusement, ça a débouché sur des désillusions. Et je crois que le monde entier est aujourd'hui dans la désillusion. C'est-à-dire qu'il y a eu un système qui a suscité beaucoup d'attentes et qui finalement a fait faillite, qui était le système soviétique pour aller vite. Et il y a un autre système qui s'est développé sur les décombres du système soviétique, qui était un système de capitalisme moins social qu'autrefois, pour dire les choses comme ça. Et ce système-là arrive aujourd'hui, lui aussi,
à son terme.
À son terme, on sent qu'il est essoufflé, on sent qu'il ne répond plus aux attentes, on sent qu'il produit aussi des dirigeants qui n'ont pas beaucoup d'autorité morale. Bon, je pense aux États-Unis, mais pas uniquement. On a des populations qui sont travaillées par des mouvements de doute, de scepticisme par rapport à toutes les institutions.
D'injustice aussi.
Oui, et d'injustice. Et donc, il y a un climat malsain qui se répand. Et je dirais que la caractéristique du monde d'aujourd'hui, c'est que nous sommes déboussolés. Nous sommes vraiment déboussolés.
Alors, tout à l'heure, on a parlé de Roménie, Satcha. Vous avez Deng Xiaoping, parce que finalement, c'est une révolution économique, lui aussi.
C'est une grande révolution.
C'est-à-dire, oui.
Quand on imagine que la Chine était le grand pays communiste, que Mao Tse-tung était donné parfois comme exemple de celui qui allait changer le cours de l'histoire. Et là, on a vu en Chine, d'une manière beaucoup plus tranquille, la montée d'un autre mouvement, une révolution contre la révolution, en fait.
Conservatrice.
Qui sans jamais déboulonner la statue de Mao Tse-tung, a complètement transformé
sa
politique.
Oui.
Et qui a réussi, mais qui a réussi comme expérience capitaliste. C'est-à-dire, étrangement, le plus grand pays communiste a été à l'origine de la plus grande réussite du monde capitaliste.
Oui. Bon,
c'est un phénomène majeur. Mm-hmm. C'est un phénomène majeur qui a aussi des répercussions sur le plan stratégique. C'est-à-dire, nous sommes dans un monde où il y a de nouvelles puissances qui apparaissent. Bon, la Chine, bien sûr, mais également l'Inde, mais également d'autres pays qui sont là, qui vont forcément jouer un rôle de plus en plus important. Et il n'y a pas dans le monde un cadre, un ordre mondial capable de canaliser toutes ces puissances.
Absolument.
Le pays qui est la seule grande puissance, les États-Unis, n'a plus d'autorité morale. L'Europe n'arrive pas à se constituer. Elle est même en train de elle est un peu branlante quand même. Et
la Chine se réveille.
La Chine se réveille et elle va certainement jouer un rôle de plus en plus important. Et l'on assiste au début d'une nouvelle course aux armements et peut-être même d'une nouvelle guerre froide que personne n'arrive à empêcher.
Oui. Vous avez mentionné également Jean-Paul II. Quel a été son rôle?
Il a joué un rôle important à un moment crucial de l'histoire du monde communiste. Il faut se souvenir que dans la deuxième moitié des années 70, l'Union soviétique était dans une situation très paradoxale. D'un côté, elle avait l'impression d'être en train de conquérir le monde. Elle venait de gagner en Indochine avec la chute de Saigon, de Phnom Penh, etc. Elle avait pu gagner à sa cause une bonne dizaine de pays africains. Elle avait le sentiment qu'il y avait, qu'il allait y avoir une expansion du système communiste à travers le monde. Et en même temps, le pays était en train de perdre sa crédibilité après l'écrasement du printemps de Prague, avec les difficultés économiques de l'Union soviétique qui devenaient de plus en plus apparentes. Et donc, il y avait un paradoxe. D'un côté, les dirigeants soviétiques avaient l'impression d'être en route pour conquérir le monde. Et d'un autre côté, le système est en train de s'effriter de l'intérieur.
Et ils ne se sont pas rendus compte.
Et l'événement, il y a eu des événements qui se sont produits autour de l'année 78-79, ouais. Justement. À l'est, il y a l'Afghanistan, où les Soviétiques se sont lancés dans une aventure qui allait être leur Vietnam,
ouais.
Qui allait amener à la chute du régime. Et à l'ouest, il y avait la montée d'une révolte, non pas violente, mais extrêmement efficace,
forte, ouais.
Qui a commencé en Pologne et qui a eu comme catalyseur deux figures très importantes, deux Polonais. D'un côté, le pape.
Ah oui,
pape,
et l'Échevalaisa.
Et avant l'Échevalaisa même, il y avait Brzezinski qui était le conseiller, le principal conseiller de Carter et qui avait la même vision d'essayer de saper le système communiste en Europe orientale. Et c'est là qu'est apparu le mouvement Solidarność avec l'Échevalaisa. Et donc, c'était un rôle important.
Et oui. Alors, pour terminer, Amin Malouf, rien n'est perdu encore. Il y a encore, on peut faire quelque chose. Vous parlez de l'Europe, on espère qu'elle ne va pas elle aussi se déliter.
Certainement que rien n'est perdu. Mais mon livre, son but n'est pas pas du tout de dire c'est fini. Nous sommes au crépuscule de quelque chose. Ce n'est pas vrai. Simplement, il faut ouvrir les yeux, il faut constater que le monde se porte mal, qu'on ne peut pas continuer dans la même voie, qu'il faut repenser la manière dont le monde fonctionne, qu'il faut avoir une plus grande solidarité pour faire face à des problèmes comme la perturbation climatique et autres, pour empêcher qu'on aille vers des sociétés qui s'effritent, qui se désintègrent. Et donc, c'est un cri d'alerte, en quelque sorte, pour dire, ouvrons les yeux, prenons conscience de la gravité des problèmes pour éviter d'aller vers un naufrage.
Et agissons.
Agissons, certainement.
Un grand merci, Amin Malouf. Je rappelle à nos auditeurs qu'il s'agit d'un essai intitulé « Le naufrage des civilisations », une analyse très approfondie et que l'on lit passionnément parce que, effectivement, ça concerne tous nos pays. Évidemment, d'abord, le foyer de notre civilisation, le Moyen-Orient, on l'appelait le Levant. Voilà, c'est un très beau titre, d'ailleurs. Le naufrage des civilisations, paru chez Grasset. Merci encore.
Merci.